Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why I'm hot.
Bienvenue donc dans Soft Power, magazine de la classe créative et numérique de France Culture, en direct jusqu'à 20h. On parle ce soir de santé et de numérique, comment le numérique peut favoriser la santé et nous aider à mieux nous soigner, mais comment il crée également de nouvelles addictions et à terme de nouvelles maladies peut-être. Ni bon ni mauvais en soi, le numérique doit être analysé le plus objectivement possible, sans fantasme, mais en tenant également compte d'un principe de précaution. C'est tout cela qui va nous guider ce soir. Et c'est de tout cela que nous allons parler avec nos trois invités, dont deux médecins, le professeur Gilles Renard. Vous êtes monsieur ophtalmologue, professeur des universités, directeur scientifique de la Société française d'ophtalmologie. À ce titre, d'ailleurs, vous parlerez en son nom. Et vous êtes l'ancien chef de service ophtalmo de l'Hôtel Dieu à Paris. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
À vos côtés, Damien Mascret, médecin généraliste et journaliste au Figaro. Vous occupez des pages santé du Figaro. Bonsoir.
Bonsoir.
Enfin, troisième invité ce soir, du côté davantage des nouvelles technologies, pro-technologie, Alexis Normand. Vous êtes directeur du développement à WeThings, une entreprise spécialisée dans les objets connectés. Vous venez de publier la Révolution de la e-santé aux éditions Erol. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Avec vous trois, nous évoquerons ce soir les addictions, les problèmes de vue et d'ouïe, le mal de dos, le téléphone au volant, les risques de l'automédication du fait d'Internet, disons donc la face sombre des nouvelles technologies, mais aussi les espoirs qu'elles peuvent susciter, l'e-santé, les capteurs et autres outils, mais aussi des exemples de santé digitale, notamment en Afrique ou en Inde. Tout cela dans Soft Power ce soir. Et nous écouterons également, au cours de cette émission, nouvelle album d'Arcade Fire, ainsi qu'Ariane Grande, comme on l'a dit il y a un instant, dont le concert aura lieu tout à l'heure à 20h à Manchester, et tout ça dans Soft Power jusqu'à 20h. Cette émission réalisée ce soir par Anne-Laure Chanel, avec en régie notre confrère et ami Jean Frédérics. Elle a été préparée ce soir par David Lavaux, avec pour les réseaux sociaux François Flure. Vous pouvez également suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify, ainsi que sur Instagram, Medium, Facebook, en podcast et sur France Culture en direct. Je commence cette émission en vous recommandant quatre enquêtes relatives à la santé qui sont donc en lien avec notre émission de ce soir, même si elles ne parlent pas directement des nouvelles technologies, elles concernent la santé. Donc ces quatre enquêtes, dans chacune d'elles, on découvre finalement comment les lobbies industriels, parfois pharmaceutiques, achètent ou compromettent les scientifiques pour favoriser leurs bénéfices financiers au mépris parfois de la santé publique. Alors, première enquête, c'est celle, disons-le, formidable, publiée cette semaine dans Le Monde, et qui montre comment la firme américaine Monsanto a voulu minorer le fait que plusieurs éléments de son produit phare, le célèbre désherbant Roundup, et en particulier son principal composant, le pesticide glyphosate, serait cancérigène. Monsanto a tout fait et par tous les moyens, pour démolir l'Agence des Nations Unies contre le cancer qui avait classé son Roundup comme cancérigène. L'enquête du Monde, publiée ce week-end sur 4 pages entières, c'était vendredi et samedi, montre comment Monsanto a falsifié la vérité à coup d'actions légales, mais aussi de dénigrement, de menaces, de mensonges et de propagande d'une violence inouïe. L'enquête est terrible et effarante. Elle mérite d'être lue par tous ceux et tous les citoyens qui pensent qu'on a le droit à une information juste et indépendante. Autre sujet, autre enquête, mais un constat similaire avec Golden Holocaust de Robert Proctor. Ce livre a été publié en France il y a déjà 3 ans, mais je souhaite le mentionner ce soir tant les lobbies du tabac restent influents dans notre pays. En 700 pages, je dirais même 700 pages définitives, Robert Proctor, qui est professeur d'histoire des sciences à l'université de Stanford aux États-Unis, montre comment la cigarette est létale, pas seulement nocive, et que cette dangerosité extrême est connue depuis de longues années. Mais voilà, les industriels du tabac ont tout fait pour masquer cette vérité. Pire, ils ont payé des médecins, acheté des comités scientifiques, manipulé les faits pour minorer la dangerosité du tabac qui cause chaque année la mort de près de 80 000 personnes en France, soit environ 200 décès chaque jour. Robert Proctor signe une enquête remarquable où tout est enfin dévoilé. Troisième enquête cette semaine, celle du New York Times, publiée ce matin, et qui revient sur le lobby républicain, scientifique et religieux, qui a convaincu Donald Trump que le réchauffement climatique était une fausse science, fake science. Et on découvre dans cette enquête du New York Times que tout cela remonte en fait à une dizaine d'années et s'est appuyé pendant toutes ces années sur des positions, des aides industrielles à coût de millions de dollars. L'article est intitulé « How GOP, en l'occurrence le parti républicain Leaders, came to view climate change as fake science » est publié ce matin dans le New York Times. Enfin, quatrième enquête, je signale un livre à paraître que je n'ai pas encore lu puisqu'il paraîtra en septembre. Il est signé Guillaume Coudray, c'est un journaliste pour Cache Investigation. Et le livre s'intitule « Cochonnerie ». Plus modeste et moins scientifique que les précédents, ce livre s'intéresse à la charcuterie et à la toxicité de nombreux additifs ou dérivés nitrés, notamment le nitrate de potassium ou le nitrite de soude, ajoutés par exemple au jambon, oui, notre jambon, pour le rendre plus rose, ajouts qui peuvent rendre cette charcuterie également cancérigène. Le livre « Cochonnerie » sera publié par La Découverte, donc en septembre. Que ce soit sur les produits Monsanto, que ce soit sur le tabac ou encore la question écologique ou les dérivés nitrés, on voit bien que dans ces quatre cas, les lobbies industriels et agroalimentaires se soucient de leurs intérêts financiers plus que de santé publique. Essayons de garder en mémoire tout au long de cette émission la complexité des sujets de santé, de leurs enjeux face aux doutes parfois, mais aussi le fait qu'il existe des chercheurs achetés et des études faussées au mépris de la santé publique. Les références de ces quatre enquêtes sont sur notre page Soft Power, sur le site franceculture.fr et sur Twitter au hashtag Soft Power. Alors nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec trois invités ce soir, je l'ai dit, dont deux médecins ainsi qu'un spécialiste des nouvelles technologies. Avec vous trois, nous allons évoquer de nombreux sujets. On peut peut-être commencer avec vous, Damien Mascret. Vous êtes médecin et journaliste au Figaro, et notamment le Figaro, c'est une parenthèse, mais à chaque lundi, je crois, des pages santé assez longues, c'est quatre pages complètes.
Oui, tout à fait.
Une question peut-être interne un peu au Figaro, mais ces quatre pages sont visent directement à parler des problèmes de santé, de ce qui concerne les gens. C'est pas un jugement, mais on a par exemple un supplément aussi santé au journal Le Monde, qui lui est beaucoup plus dans l'analyse du secteur, beaucoup plus dans le choix, disons, comment est-ce que les débats éthiques, les positionnements de fond, la vision intellectuelle de la santé, c'est un choix donc très radicalement opposé à celui du Monde. Comment vous l'expliquez?
Oui, c'est un choix différent qui a été fait.
Plus pratique,
voilà,
au fond.
Dès le début, l'idée a été d'être près de l'usager, du consommateur de santé, puisque c'était dans l'air. En tout cas, de lui apporter, de faire vraiment le go-between entre la science et l'usage qu'on peut en faire, avec cette nuance qu'on peut se permettre en tant que journaliste par rapport aux autorités de santé, qui est d'aller aussi sur le probable, le possible, alors que les autorités attendent souvent des confirmations, des faits très avérés, et donc sont parfois un peu gênés aux entournures pour prendre des positions dans les sujets un petit peu débattus. Et nous, on peut se le permettre. Alors, pas nous tout seuls, la rédaction et les journalistes, évidemment, on fait appel parfois à des experts. Il y a une page d'ailleurs qui s'appelle Avis d'experts, ou aux sociétés savantes d'ailleurs, où on pose une question. Alors, c'est nous qui choisissons la question, une question très grand public, si on peut dire, mais en tout cas qui intéresse le citoyen, et on la pose parfois à des sociétés savantes qui elles-mêmes vont choisir un expert parmi
Et vos articles sont souvent signés par des médecins, dont le nom apparaît, donc qui sont eux-mêmes acteurs du système de santé, avec des recommandations très pratiques. Comment est-ce qu'on lutte contre tel ou tel élément, telle maladie? Donc, c'est le rôle, selon vous, d'un journal comme Le Figaro, d'apporter à ses lecteurs, et notamment, il y a beaucoup d'articles sur les seniors, il y a beaucoup d'articles sur les personnes âgées, les maladies vieillissantes, enfin, des personnes vieillissantes, etc.
Bah, c'est vrai qu'on a quotidiennement une page science et médecine, donc qui nous permet d'aborder éventuellement des questions qui portent sur le secteur lui-même. Mais l'idée était vraiment de dire, dans ce foisonnement d'informations, on va en reparler sans doute pendant toute l'émission, cette masse d'informations qui n'arrête pas d'arriver, comment faire le tri entre ce qui est de la bonne information, en tout cas qui nous paraît solide scientifiquement, utile pour le citoyen, et ce qui nous paraît au contraire superflu. Je vous cache pas que très souvent on hésite, doit-on traiter tel sujet, on estime que scientifiquement ça n'en vaut pas la peine, et puis on estime par contre que pour le public c'est important d'avoir un avis, donc ça tombe idéalement, j'allais dire, dans le supplément santé du lundi.
Alors, première question au fond liée maintenant à cette émission. Damien Mascret, je rappelle que vous êtes médecin généraliste et journaliste au Figaro. Le Figaro, c'est un quotidien. On l'a dit, les articles sont écrits par des médecins, des spécialistes. Mais on a aujourd'hui, notamment sur Internet, une information très très vaste avec des sources innombrables, parfois fiables, parfois moins fiables, des sites spécialisés, des blogs, des chats. Bref, un très grand nombre d'informations qui permet à n'importe qui de trouver n'importe quoi, y compris de faire de l'automédication. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette question de la vérification de ces sources médicales?
Oui, c'est vrai qu'on insiste toujours beaucoup sur les sources, sur les références. On met d'ailleurs beaucoup de liens à Internet dans nos articles pour que les gens qui lisent l'article, qui est forcément restrictif, puissent aller voir à la source ce qu'il y avait dedans et vérifier, j'allais dire, notre travail finalement. Et on met toujours en garde l'usager contre les informations qui sont un petit peu trop spectaculaires. On sait qu'en médecine, une information spectaculaire, c'est rarissime. Alors, on aime bien une tendance de journaliste, avec ma casquette journaliste cette fois, je vous dirais qu'on aime bien quand même faire un petit peu rêver les gens, en tout cas leur donner de l'espoir quand on sent que quelque chose est en train d'émerger.
Puis répondre par oui ou par non à des questions complexes, c'est ça le problème.
Et voilà, sinon on aurait toujours un point d'interrogation dans nos titres, parce que c'est vrai que c'est difficile d'être catégorique en science, mais en même temps, parfois, il faut l'être, parce que je prends l'exemple des vaccins, où très souvent on entend des âneries énormes sur les vaccins. Eh bien, parfois, peut-être qu'on prend un peu trop position, je ne sais pas, mais en tout cas, si on prend position, c'est sur des arguments scientifiques, absolument pas sur des croyances ou des convictions personnelles.
Alors, dès qu'on traite la question du numérique, je l'ai dit en introduction, il y a à la fois des aspects positifs, des aspects négatifs. Au fond, les nouvelles technologies, le numérique ne sont pas bons ou mauvais en soi pour la santé, ça va dépendre des détails, et c'est sur ces détails que nous allons nous interroger et revenir tout au long de cette émission. On pourrait peut-être classer, pas tous, mais un grand nombre des problèmes que nous allons rencontrer au cours de cette émission autour d'un mot qui est celui des addictions, puisque le numérique c'est d'abord souvent des écrans, que ce soit l'ordinateur, que ce soit une tablette, que ce soit un smartphone. On reviendra aussi tout à l'heure sur les casques de réalité virtuelle, plus spécifiques mais non pas moins problématique pour des questions de santé, notamment pour les ophtalmologues. Les addictions, ça pourrait être un peu le fil conducteur de ces problèmes qu'on rencontre en termes de santé et numérique.
Alors c'est l'un des axes effectivement qui traverse le secteur, parce qu'on sait que ça devient très difficile de s'en passer. Et un petit peu comme tous les tests en médecine d'ailleurs, la question c'est: est-ce vraiment utile? Alors, évidemment, c'est difficile de faire le tri à froid. Il faudrait regarder spécifiquement, par exemple, application par application, site par site, utilisation par utilisation. Mais il n'empêche que on s'est aperçu, effectivement, et notamment pour les réseaux sociaux, par exemple, on dérive un petit peu de la santé, mais en tout cas, il y a une grosse utilisation des réseaux sociaux aussi à travers la santé, notamment aux États-Unis, où on a des réseaux de patients entre eux qui se donnent des conseils. Et on s'aperçoit quand même de signes un petit peu inquiétants. Tant du côté de l'addiction du consommateur qui a envie vraiment de se surveiller, de surveiller sa santé, d'avoir sans arrêt des informations, des critiques, que du côté du fond, parce qu'on s'aperçoit que l'usager a plus tendance à faire confiance à ses pairs, à d'autres malades finalement, parfois qu'à des professionnels. Et ça, c'est une tendance vraiment inquiétante, parce que tous les avis ne se valent pas, et on sait en médecine en particulier que le cas d'une personne est rarement même transposable à la situation de quelqu'un d'autre. Donc c'est à la fois utile, parce que c'est un soutien et c'est des informations souvent très pratiques, mais ça peut être aussi dangereux, parce que ça n'a aucun contrôle.
Alors, s'agissant des addictions, même si ce ne sont pas les seules dont on doit parler ce soir, malgré tout, les plus jeunes sont évidemment les premiers concernés. On pense aux horaires. Alors, les études varient, mais certaines études montrent que, en tout cas, les adolescents, et cela dès souvent l'âge de 12, 13 ans, parfois plus jeunes, passent plusieurs heures, parfois des dizaines d'heures par semaine sur un smartphone, souvent le soir. On y reviendra en ce qui concerne l'ophtalmologie, souvent le soir, la nuit, dans le lit, c'est-à-dire avec des problèmes de luminosité très forts. Les jeunes donc sont très massivement, notamment du fait de l'addiction des réseaux sociaux, le rôle de Snapchat, d'Instagram, de Facebook évidemment. Là, on a une interrogation très importante sur les conséquences que ça va avoir sur la durée.
Alors, et puis on a déjà une conséquence qui est gravissime, c'est sur le sommeil. On sait, et ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui le disent, quand on interroge les jeunes. Alors là, c'était une enquête sur les 14-24 ans qui a été faite en Grande-Bretagne le mois dernier.
On va poster ces références sur Twitter et sur notre page.
Et cette étude montrait clairement qu'ils étaient les premiers à reconnaître que c'était un problème pour leur sommeil. Voilà, ça amputait leur sommeil parce que le soir, avant de s'endormir, ils vont inévitablement se connecter à leur réseau, alors que via Insta, via Snap ou autre. Ou Facebook, ou regarder des vidéos sur YouTube, enfin bref, ils vont inévitablement passer beaucoup de temps.
Alors on sait déjà. Et en quoi ça atteint le sommeil ?
Alors, ils dorment moins.
Oui,
déjà,
alors ça, c'est simplement.
Plus tard, c'est mécanique. Mais il y a aussi le fait de rester parfois connecté la nuit, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des notifications. Alors certes, leur groupe d'amis dort aussi en principe, les 15-16 ans dorment quand même, mais néanmoins, certains, s'ils se réveillent, vont regarder l'écran, vont éventuellement envoyer un message, ne serait-ce que pour montrer qu'ils sont réveillés.
Et réveiller une autre personne.
Et éventuellement, si on a effectivement laissé la luminosité, ça peut-être, alors pas toujours, heureusement, réveiller les autres. Donc on a une sorte de connexion permanente qui a parfois des avantages pour les psychiatres. Ils vont nous dire que c'est important d'être avec un réseau de soutien, mais qui a surtout un inconvénient sur le sommeil. On sait que c'est la base de beaucoup de choses en santé, d'avoir un bon sommeil.
Alors sur le sommeil, il y a aussi, on dit, certaines des études montrent que c'est aussi, ça excite, ça a une tendance, alors à la fois pour des questions de luminosité, mais aussi, et il faudrait presque avoir une espèce de sas avant de se coucher. Et si on n'a pas ce moment un peu sans écran, ce moment sans l'excitation qui peut venir des réseaux sociaux, on va avoir peut-être des difficultés à trouver le sommeil, ou un temps d'endormissement plus long. C'est prouvé ou c'est des hypothèses de scientifiques pour l'instant?
Alors non, c'est prouvé qu'effectivement on a un retard à l'endormissement, donc ça c'est avéré. Et puis on a aussi un effet, mais ça on en reparlera tout à l'heure je pense, sur la mélatonine, qui est cette hormone qui devrait nous préparer au sommeil et dont la sécrétion va être retardée à partir du moment où on est sur des écrans, pas seulement les smartphones d'ailleurs, tous les écrans et toutes les luminosités. Donc on a un effet à la fois direct et indirect de l'application, de l'utilisation des réseaux et d'Internet sur l'endormissement. Ça, c'est effectivement avéré.
France Culture, il est 19h18. Ce soir, nous sommes avec deux médecins et un spécialiste des nouvelles technologies. Avec vous, notamment, Damien Mascret. Vous êtes médecin généraliste, journaliste au Figaro. Et on va parler jusqu'à 20h de ce qu'on pourrait appeler les maladies, entre guillemets, numériques. On verra aussi, évidemment, les points positifs du numérique, des nouvelles technologies pour aider la santé, la e-santé. Peut-on évacuer tout de suite un certain nombre de sujets qui sont un peu de l'ordre du fantasme, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire peur sur des sujets qui restent complexes et dont d'ailleurs les conséquences en termes de santé sont restent à apprécier, restent à vérifier pour certains d'entre eux. Il y a des associations, il y a un certain nombre de personnes qui sont très inquiètes par les antennes sur les toits et donc tout ça crée une psychose, etc. Sur ça, on a un certain nombre d'études aujourd'hui assez précises qui tentent à montrer... évidemment avec une marge d'erreur, comme toujours, sur la durée, on verra, mais que le risque est infinitésimal, en tout cas.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'électro-hypersensibilité. Et effectivement, alors il y a des gens qui en souffrent réellement, c'est-à-dire des gens qui s'en plaignent. On a alors une association qui est en train de relever ou d'appeler à recenser tout ça, et qui a déjà plus de 150... peut-être même presque 200 membres en France. Mais pour autant, une vraie plainte ne signifie pas que c'est dû à la cause présumée. On peut simplement avoir peur.
L'idée, c'est qu'il n'y a pas de diagnostic médical sur l'électrosensibilité.
Exactement. Et quand on fait des tests, une personne qui se dit électrosensible est incapable de dire si c'est allumé ou pas allumé. On a eu un exemple célèbre il y a quelques années où dans un immeuble, une antenne relais avait été installée sur le toit de l'immeuble. Il y avait une famille avec un bébé. Le père a commencé à avoir des maux de tête assez sévères, bref, des troubles. Ensuite, c'était la femme, le bébé aussi, dont on disait qu'il saignait du nez. Donc, bien sûr, inquiétude. En plus, il y avait deux écoles à proximité, vous imaginez. Et puis, en fait, on s'est aperçu que c'était pas encore raccordé au réseau. Donc, c'était absolument pas encore. Il y avait vraiment cette peur. Donc, on voit que la peur peut aussi générer des choses. Faut pas le nier. L'Académie de médecine l'a dit. Ça n'existe pas en tant que maladie due à ça. Mais néanmoins, les gens qui s'en plaignent doivent évidemment être pris en charge.
Alors, venons-en à quelque chose qui, pour le coup, est beaucoup plus connu et désormais scientifiquement prouvé, c'est tout ce qui concerne la vue et donc notamment les yeux, les questions d'ophtalmologie. Et là, nous sommes rejoints par le professeur Gilles Renard. Bonsoir, monsieur. J'ai dit que vous êtes ophtalmologue, professeur d'université, directeur scientifique de la Société française d'ophtalmologie et vous avez dirigé le service ophtalmo de l'Hôtel Dieu à Paris. En tant qu'ophtalmo, quels sont les vrais problèmes que vous rencontrez et ceux qui vous paraissent peut-être moins importants ?
Il y a deux grands problèmes qui sont liés essentiellement à l'observation d'écrans qui émettent une lumière potentiellement toxique pour l'œil.
La fameuse lumière bleue, c'est ça ?
La fameuse lumière bleue. Cette lumière bleue n'est pas émise par tous les types d'écrans. Autour de la table dans ce studio, il y a des écrans OLED qui en émettent beaucoup. Il y a des écrans LCD qui n'en émettent pas. Et donc, il y a une confusion dans le public qui est terrible parce que les gens, on leur dit, c'est les écrans. Mais les écrans, je pense qu'on va nous expliquer qu'il y a tout un tas de sortes d'écrans et qui ne sont pas tous forcément toxiques. Alors, pour simplifier les choses, disons que le terme, c'est LED ou OLED. Voilà, à partir du moment où il y a de la LED quelque part, c'est-à-dire cette espèce de petite puce qui émet de la lumière, elle peut émettre un bleu toxique. Et pour nous, il y a trois phénomènes. Il y en a un qui est lié à l'endormissement. Il est clair que nos yeux sont faits pour avoir de la lumière chaude le soir quand le soleil se couche et de la lumière froide le matin quand le soleil se lève. Et que si on fait l'inverse en s'exposant le soir à des écrans qui émettent du bleu, on ne va pas s'endormir. Le deuxième phénomène est lié à la surface oculaire, c'est-à-dire au film de l'arme et à la cornée, qui sont très fortement perturbés par la lumière bleue jusqu'à entraîner éventuellement des kératites et des sécheresses oculaires qui peuvent être extrêmement gênantes. Et le troisième phénomène, qui est celui qui a le plus alerté sur la lumière bleue, mais pour lequel les preuves ne sont pas encore totales et définitives, c'est le risque de dégénérescence de la rétine, aboutissant à une dégénérescence maculaire identique à celle que l'on observe actuellement lorsqu'elle est liée à l'âge. Et là, on sait qu'il y a un effet de la lumière bleue, que cet effet est cumulatif, et que si un jour les gens qui ont trop regardé les écrans doivent avoir une dégénérescence maculaire, ça sera dans 40 ans. Il est donc impossible de dire dès maintenant s'ils l'auront ou s'ils ne l'auront pas. Ce qu'on sait, c'est que c'est toxique, c'est parfaitement prouvé. On ne sait pas quelle dose il faut recevoir pour aboutir à une toxicité définitive.
Alors si je résume un peu ce que vous venez de nous dire, le diagnostic, avant de parler des conséquences de comment se protéger, c'est un diagnostic d'abord ça va être de distance, ensuite de durée et ensuite de la qualité de cette lumière qu'on reçoit selon le type de support. Donc plus c'est loin, type la télévision, plus c'est près, on va parler de virtualité, de réalité virtuelle, mais même de smartphone, c'est évidemment plus risqué.
Plus on est près, plus on est à risque. C'est comme n'importe quelle émission, que ce soit des rayons X ou de la lumière, c'est exactement la même chose. Plus on s'éloigne, moins on prend de risques.
Donc un écran de télé à 10 mètres.
Mais tout simplement la lumière du soleil comporte du bleu. Ce bleu est toxique, sauf qu'il est diffus dans l'atmosphère et qui va être moins directement agressif pour votre œil. Ensuite, on a l'écran de télé qui est à 3-4 mètres, ça va encore à peu près. La tablette à 40 cm, ça commence à être toxique. Et l'écran de petit ordinateur portable, c'est la même chose. Puis après, il y a le smartphone qu'on regarde en général à 20 cm. Et le pire du pire, c'est le casque de réalité virtuelle avec ses écrans OLED qui sont à 5 cm de l'œil avec une grosse loupe consistante entre les deux. Là, il y a franchement un risque, en particulier chez l'enfant.
Après, il y a une question de durée, évidemment. Si oui. Vous regardez vos emails pendant 5 minutes et puis c'est la seule chose que vous faites dans la journée. En revanche, si vous êtes sur un jeu vidéo et que vous ne quittez pas l'écran avec vos yeux pendant des heures d'affilée toute une nuit, évidemment, ce n'est pas les mêmes conséquences.
On revient sur le problème de l'addiction. On est tout à fait capable, le soir, de regarder la télé pendant une heure et demie, le temps de voir un film, et puis d'aller se coucher. Le problème, c'est que cet écran avec des choses qui bougent et qui a une lumière bleue dominante, c'est extrêmement attirant. Mettez un gosse de 2 ans dans une pièce où il y a un écran, il va aller se coller devant. Il ne sait même pas ce qui se passe sur l'écran. Il est scotché par l'écran. Et malheureusement, ça se prolonge jusqu'à l'âge adulte, où on a tendance à rester devant l'écran pour lire les mails, devant l'écran pour jouer à des jeux vidéo. Et là, cette addiction à l'écran pose un réel problème parce que la durée d'exposition augmente. Et dans nos structures oculaires qui sont auto-réparatrices, la cornée se répare, la rétine aussi en partie, si on leur laisse pas le temps de se réparer, ben les dégâts vont s'accumuler.
Ce qui veut dire que pour toutes ces questions, puisque l'informatique et les nouvelles technologies sont... tout en n'étant pas tout à fait nouvelles, elles sont quand même, elles datent de quelques décennies, ce qui veut dire qu'on n'a pas encore d'adultes âgés qui a commencé sa vie sur écran constamment. Donc on peut se préparer à des risques qu'on n'a pas anticipés dans 20, 30, 40 ans.
On peut se préparer à voir arriver dans 30 ou 40 ans une vague de dégénérescence de la rétine qui sera lié à une utilisation trop intense des écrans dans la jeunesse.
Qu'est-ce qu'on peut faire, professeur ? On vend parfois chez vos confrères, vous-même vous êtes ophtalmo, des lunettes anti-bleu comme ça, qu'on achète d'ailleurs pour un prix assez bas, 20-30 euros, parfois moins. Ça sert à quelque chose ?
Allez, mettons les choses clairement sur le tapis. Si vous voulez retirer le bleu d'une image vidéo, il vous reste plus que le rouge et le vert. On appelle ça une couleur pisseuse. C'est franchement pas beau.
Donc c'est pas possible. On peut pas regarder un film comme ça. Ouais.
Voilà. Donc c'est pas possible. On peut pas retirer tout le bleu. Alors on en retire une partie. Et les filtres, ils agissent dans une bande de 10 à 20 nanomètres. Donc on va travailler sur une bande dans le bleu, mais pas tout le bleu. Puis on va pas retirer toute cette bande, parce que si on retire tout, ça déséquilibre la couleur de l'image, donc on va en retirer 20%. Le résultat, c'est qu'avec ces filtres, vous retirez 20% de 20% de la lumière bleue toxique, c'est-à-dire pas grand-chose.
Donc c'est un peu un gadget.
Bah, c'est mieux que rien, puisqu'on n'a rien d'autre.
Mais, ça ne
mais très
pas.
Franchement, c'est plus du marketing que de la réalité médicale.
Et boum pour vos confrères ophtalmo et surtout
non,
pour
les
opticiens en l'occurrence.
C'est les opticiens. Ouais. Maintenant, ils n'ont rien d'autre. Bon, les gens paniquent à cause de la lumière bleue. On leur propose des lunettes anti-lumière bleue. Ils les achètent. Moi, j'ai rien contre. Ça ne me dérange pas.
Ça ne fait pas de temps, mais ça fait...
Même les 2-3% de lumière bleue en moins,
c'est toujours ça
de prix.
Un article intéressant, on met ces liens sur Twitter et sur notre page Soft Power, sur France Culture, publié dans le New York Times, qui faisait un peu la synthèse de tous les problèmes de vue liés aux ordinateurs. Tear Your Eyes Away from the Computer était le titre de cet article. Il propose, un article signé Jane Brody, propose la règle des 20-20-20. Autrement dit... toutes les 20 minutes, lorsque vous êtes sur un ordinateur ou sur une tablette ou sur un smartphone, toutes les 20 minutes, prenez 20 secondes de pause et pendant ces 20 secondes, regardez à 20 mètres plus loin. Donc 20-20-20. Ça vous paraît intéressant comme... alors là, c'est pas pour la lumière bleue, mais c'est pour faire reposer l'œil et notamment les questions de sécheresse et les questions aussi d'humidité de l'œil, etc.
Ça me paraît intéressant. C'est typiquement américain. Le chiffre 20, pour les ophtalmos américains, est une base... puisque une acuité visuelle normale aux États-Unis, c'est pas 10 sur 10, c'est 20 sur 20.
Donc 20-20-20, c'est bien.
Oui, pour eux,
ça
c'est
se retient bien.
Ça se retient bien.
Mais l'idée, concrètement, l'idée, c'est de faire une pause, et ça, c'est l'autre proposition qu'on peut faire.
L'idée est tout à fait bonne. Je redis, nos tissus sont auto-réparateurs. Donc, il faut leur laisser le temps de se réparer. Alors qu'on s'arrête toutes les 20 minutes, ou toutes les 30 minutes, ou toutes les heures, mais qu'on s'arrête suffisamment longtemps, en regardant suffisamment loin pour relâcher l'accommodation et relâcher la convergence, c'est effectivement une bonne chose. Moi, je le conseille à tous.
Ça évite les yeux secs, ça va aussi permettre
ça va jouer sur la surface oculaire, ça va jouer sur la rétine, ça va jouer sur les muscles oculomoteurs, ça va jouer sur beaucoup de choses qui vont se détendre et se relâcher.
Mettre des gouttes aussi, c'est des recommandations qu'on lit ici ou là, ça a un sens.
Après,
ça dépend quelles gouttes, vous allez me dire aussi.
Voilà, des gouttes, il y en a à peu près 200 dans le Vidal.
Bon, le Vidal qui est le guide
Absolu
des pharmaciens. Hein.
Les gouttes, j'y crois pas beaucoup, parce que les gouttes, faut avoir le flacon sous la main, faut les mettre. C'est tellement plus simple d'utiliser des moyens naturels. On a des paupières qui sont faites pour couvrir l'œil et le protéger.
Donc il faut fermer les paupières.
Ben voilà. On ferme les yeux et puis on attend que la surface se répare.
Il y a aussi des médecins, des ophtalmos qui vous envoient chez des spécialistes pour la rééducation de l'œil. Là aussi, ça peut être utile dans certains cas.
Alors, ça peut être utile lorsque on est dans une situation de mauvaise vision binoculaire, de mauvais équilibre binoculaire.
Mais qui serait lié aux ordinateurs ou c'est...
Non, mais qui est révélé et aggravé par l'ordinateur. L'ordinateur ne crée pas de lésions dans ce domaine, mais il révèle les anomalies. Et alors, quand on est en vision en relief, là, c'est pire que tout. Donc, dans les casques, les casques de réalité virtuelle vous révèlent la moindre anomalie de vision binoculaire et surtout la dissocient. C'est-à-dire que tout d'un coup, un gosse qui va être dans son casque, il va neutraliser un œil et utiliser l'autre. Quand il va enlever le casque, il va continuer à neutraliser d'un œil. C'est ce qu'on appelle l'amblyopie fonctionnelle. Et ça peut se terminer très mal et ça nécessite une rééducation.
Alors si on veut résumer ce que vous nous avez dit sans nous faire peur en ce qui concerne toutes les questions d'ophtalmologie, donc les lunettes anti-bleues si on n'a rien d'autre à faire, faire des pauses c'est le plus important, essayer de contrôler la luminosité aussi, on ne l'a pas évoqué dans le détail, mais de l'écran, donc peut-être une luminosité plus faible. Il y a aussi certaines applications qui corrigent ces lumières sur certains écrans. Elles sont un peu techniques. Mais...
Il y a des applications qui enlèvent du bleu dans l'image, en particulier quand on est sur fond blanc. Quand on travaille sur du texte, on est sur fond blanc, donc il y a une émission de bleu qui est relativement importante. C'est moins grave sur les jeux vidéo qui sont, vous l'avez sans doute remarqué, en général sur fond sombre.
Et puis très coloré.
Et très coloré, de façon à permettre une addiction encore plus forte, parce qu'on va rester plus longtemps, puisqu'on n'a pas les yeux qui piquent. Bon voilà, mais globalement, si j'avais à résumer, c'est comme en nourriture, il faut être raisonnable.
Un peu de tout, mais pas trop.
Voilà.
C'est Damien Mascret, médecin également.
Oui, c'est vrai que c'est une grande règle hein, en santé, de tout sans excès. Malheureusement, on tombe rapidement dans les excès. Et on le voit d'ailleurs, c'est un autre problème de vision qui est émergent et qu'on a vu naître, surtout dans les pays asiatiques, où les enfants ne jouaient plus dehors au moment de la croissance de l'œil. Et on s'aperçoit qu'on se retrouve avec 80-90% d'une classe d'âge de ces ados qui sont myopes. Et ça, on sait très bien que c'est parce que on n'en voit plus les enfants jouer dehors. Donc ils sont plus suffisamment exposés au soleil. Ils restent même, c'est en Asie, mais il y a certains pays où ils restent même pendant la récréation dans les salles. Donc effectivement, ils ne sont plus exposés à la lumière du jour. Et effectivement, notre corps naturellement fait des tas de choses formidables. Et notamment, il aide à faire croître l'œil de façon harmonieuse grâce à la lumière du soleil à laquelle on doit être exposé naturellement. Quand on le fait plus, on a des conséquences.
Alors nous avons évoqué tout un tas de questions liées à la vue. Après une courte pause, on reviendra sur d'autres aspects, notamment d'ouïe, d'écoute, mal de dos, tout ce qui concerne la prévention routière. Et on reviendra ensuite pour être plus positif sur toutes les innovations que le numérique peut apporter en termes précisément de santé. Tout ça dans un instant, juste après Arcade Fire. Vous êtes sur France Culture. Le podcast de Soft Power est disponible sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. À l'instant, Everything Now du groupe américano-canadien Arcade Fire, un morceau coproduit d'ailleurs par Thomas Bangalter, alias la moitié, comme on dit, du duo français Daft Punk. Arcade Fire a accompagné la sortie de ce titre en exclusivité par deux annonces. Un album sortira le 28 juillet, album complet, et une tournée aussi est prévue pour cet automne. Mais en attendant, ils seront demain soir à Lyon dans le cadre des Nuits de Fourvière, puis le 9 juillet aux Eurocaennes de Belfort, enfin le 15 juillet au Festival des Vieilles Charrues en Bretagne.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
France Culture, 19h36, en direct, on parle ce soir de santé et de numérique, deux termes qui ne vont pas toujours ensemble, mais qui peuvent aller ensemble. Nous allons le voir dans un instant avec vous, Alexis Normand, on parlera de WeThinks et de la révolution de la e-santé. Mais juste avant, on peut terminer, Damien Mascret, par le survol des questions que pose le numérique. On a évoqué les addictions, on a parlé de la vue. D'ailleurs, il faut rappeler que dans ces cas-là, ce n'est pas forcément non plus des choses qu'on fait par choix. Ça peut être souvent lié à notre travail où on est devant un écran toute la journée, donc voilà pourquoi on ne peut pas forcément les éviter. Des problèmes sans doute moins importants que la vue, mais qui malgré tout existent. D'abord la question de l'ouïe. Vous aviez publié une longue étude dans le Figaro, Les jeunes et la musique, quel danger auditif. Là on a tout un tas de problèmes qui sont liés notamment au casque et surtout aux tout petits écouteurs qu'on met dans l'oreille à forte puissance.
Ah oui, parce que le gros problème c'est que les jeunes écoutent beaucoup trop fort la musique et il y a une fatigue auditive qui se fait au bout d'un moment. Alors théoriquement, on devrait se reposer, on devrait arrêter sa musique, se reposer, laisser encore une fois l'oreille
faire son travail. Même problème que pour les yeux finalement.
Exactement. Et en pratique, c'est pas du tout ce qu'on fait. On va avoir tendance à monter le son. C'est encore pire quand on est dans les transports en commun, quand on est dans des véhicules un peu bruyants. Et bien là, effectivement, on met ces capteurs
petits
auditifs,
écouteurs, ouais.
Voilà, à isolation phonique souvent, mais on met très fort. Donc du coup, et bien on se retrouve avec un gros risque pour l'oreille. Et là aussi, eh bien, quand les destructions sont importantes, ça ne se répare pas. Et donc là, on va garder des handicaps importants. Et c'est très dangereux parce que les parents ne s'en rendent pas compte. Voilà. Alors parfois, vous pouvez vous rendre compte, vous passez à côté d'un ado qui écoute et vous dites, c'est beaucoup trop fort, j'entends comme si c'était pas dans son oreille. Donc évidemment que c'est trop fort. Mais en dehors de ça, dans bien des cas, avec des casques notamment un peu plus performants, on ne se rend pas du tout compte du volume auquel les enfants sont en train d'écouter.
Les casques, notamment les écouteurs ont été limités désormais pour certains d'entre eux, les iPods aussi, les smartphones parfois ont leur musique limitée aussi, au risque parfois que le son est trop faible. Il y a des moyens de contourner ces limitations.
Oui, et puis il n'y a pas de limite dans les casques, donc on sait qu'on peut acheter des casques très performants qui peuvent récupérer finalement ce qui a été limité par ailleurs. La réglementation, encore une fois, est dépassée par la technologie, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment à l'usager d'être éduqué parce que les parents ne seront pas derrière et puis même les adultes se mettent en danger aussi, donc c'est à chacun finalement de s'informer et de préserver son organisme. Encore une fois, il est merveilleux, il faut le préserver.
Alors deux autres sujets peut-être moins importants également mais dont beaucoup de gens se plaignent. Le mal de dos n'est pas né évidemment des nouvelles technologies ni des ordinateurs. Il n'empêche que le fait d'être assis de manière statique sans trop bouger devant un ordinateur pendant des heures déclenche souvent des mal de dos qui n'avaient pas été diagnostiqués. Là aussi c'est peut-être plus un révélateur qu'une cause. Malgré tout ça n'aide pas. Vous avez vu ces problèmes surgir
Oui, alors ça peut parfois être une cause hein, parce que effectivement, une mauvaise position, de même qu'on disait une mauvaise position au bureau peut générer des problèmes de dos, une mauvaise position par rapport à la lecture sur l'écran peut aussi générer des problèmes dans le cou. Et on a calculé d'ailleurs, en principe, sur vos vertèbres cervicales, hein, dans le cou, il y a à peu près 5 kilos d'effort à faire sur les vertèbres. Par contre, dès que vous inclinez la tête, alors par exemple à 45 degrés, eh bien, la force est de 27 kilos. Donc vous avez 27 kilos qui s'exercent sur vos vertèbres cervicales. Alors c'est pas grave, vous avez des muscles pour ça, vous résistez, mais n'empêche que quand vous le faites pendant
des heures, 20 minutes,
et puis que ça devient des heures, eh bien, l'impact, encore une fois, va être très important. Et franchement, quand on passe du temps sur son smartphone, si on dit qu'on n'a pas un petit peu d'engourdissement ou de douleur dans le cou, c'est quand même qu'on n'est pas très honnête avec soi-même.
Mal de dos, en bas du dos notamment, alors là, ça concerne plus les ordinateurs, mais...
Oui, là, c'est plus la position par rapport à l'ordinateur. Encore une fois, il faut avoir vraiment une bonne position, une bonne tenue, être bien enfoncé dans son siège, avoir le dos bien droit, et très souvent, au bout d'un moment, on s'avachit. Il faut aussi avoir voir plutôt les coudes à angle droit. Hein, pas, s'ils ne sont pas dans la bonne position, c'est qu'on n'est pas soi-même dans la bonne position. Et puis encore une fois, l'écran qui n'est pas trop haut pour ne pas non plus avoir la tête en hyperextension. Donc elle est un peu en flexion quand même. Il y a du poids, il va falloir la soulager de temps en temps et régulièrement. Mais n'empêche qu'il ne faut pas non plus la mettre trop haute parce que vous allez avoir le cou en hyperextension, trop tendu vers l'arrière et vous allez avoir mal aussi.
Il y a tout un mouvement aux États-Unis notamment et dans les bureaux souvent comme ça ouverts où tout le monde est devant sa table. C'est le phénomène des gym balls, on appelle ça, ou des Swiss balls ou encore des exercice balls. C'est une grosse boule, très grosse en fait, la taille d'une chaise qui peut servir pour le yoga ou pour d'autres activités et que les gens utilisent comme fauteuil parce que sa position instable vous ferait travailler sans que vous vous en rendiez compte au fond. Vous bougeriez constamment et donc ce serait quelque chose de positif. On a des études sur ça
Non, en fait, c'est un peu le problème. C'est qu'on part parfois d'un concept qui paraît séduisant et on se dit, allons-y. On a des tas d'ailleurs d'applications aussi qui se basent parfois sur des concepts un petit peu limites. Enfin, limites, disons, fondées scientifiquement, mais dont l'utilisation n'est pas prouvée. Ce qui fait que là, par exemple, l'idée de changer sa position pour soulager un petit peu son dos, pourquoi pas? N'empêche que si vous prenez des mauvaises positions, c'est comme faire des exercices, comme faire des abdominaux sans les faire bien. Au lieu de vous faire du bien, vous allez abîmer votre colonne vertébrale. Donc là aussi, tant qu'il n'y a pas eu d'études, il faut rester quand même très prudent. C'est séduisant, c'est attirant, mais tant que ça n'est pas prouvé, restons prudents.
Alors là, pour le coup, il y a des études nombreuses, notamment une qui a été rendue publique cette semaine avec une campagne qui va avec par l'association de la prévention routière. La campagne a été assez médiatisée cette semaine. Elle s'appelle « Jamais seul sur la route ». C'est une campagne avec un film de 30 minutes pour sensibiliser les Français à un risque très sous-estimé, pour le coup tout à fait prouvé, puisqu'il a des conséquences avec la mortalité très forte, puisqu'un nombre d'accidents mortels sur la route sont notamment liés à l'utilisation du téléphone portable au volant, voire même, non seulement pour écouter son smartphone, mais voire même pour envoyer des SMS.
Oui, alors c'est vrai que quand on parle des accidents sur la route, il faut toujours rappeler que c'est d'abord la vitesse et l'alcool et le manque de sommeil, hein, c'est clairement ça. Mais n'empêche qu'on a vu augmenter, on a vu passer en gros entre 2010 et 2015 de 5 à 17% les accidents qui étaient dus à des fautes, des accidents donc avec mortels, hein, ou en tout cas pas forcément le conducteur mais quelqu'un a été tué, qui sont dus à des fautes d'inattention. Et c'est vrai que là aussi, une enquête récente a montré que chez les 25-35 ans, eh bien 40% reconnaissent qu'ils lisent des mails ou envoient des textos en conduisant. Alors quand on sait qu'à 130 km/h on a parcouru 170 mètres en 5 secondes, eh bien on voit que c'est impossible de lire un message et d'être concentré. S'il ne se passe rien sur la voie, évidemment, vous ne vous en apercevrez pas. Mais évidemment, s'il se passe quelque chose, vous ne réagirez
pas. C'est souvent, pour relativiser ces chiffres, c'est souvent au feu rouge, lorsqu'on est en ville et qu'il y a des bouchons, par exemple. Donc là, évidemment, le risque est moins fort, même si c'est également interdit. C'est sûr que sur autoroute, ça pose un certain nombre de problèmes.
Oui, alors malheureusement, c'est effectivement utilisé aussi sur autoroute. C'est un petit peu... c'est toujours difficile effectivement de faire le tri entre la conduite vraiment dangereuse et la conduite un peu dangereuse. On a eu ça avec le téléphone aussi dans la voiture, évidemment, ça capte votre attention. Si vous avez une conversation dans la voiture, même avec le kit main libre, eh bien évidemment que vous serez concentré sur votre conversation et d'ailleurs vous ne saurez pas ce qui s'est passé dans votre conduite pendant plusieurs minutes. Vous pourrez très bien vous rappeler la situation que vous aviez analysée quand vous conduisiez tranquillement, vous aviez vu qu'il y avait une voiture, vous étiez sur l'autoroute qui était à 150 mètres derrière, que devant il y en avait deux, une dont vous vous méfiez un peu, un autre. Vous aviez tout ça bien en tête. Et puis d'un seul coup, vous avez discuté. Quand vous revenez, les voitures ont disparu, le camion n'est plus là, mais vous ne vous souvenez absolument pas de ce que vous avez fait automatiquement. Vous n'avez pas eu les réflexes parce que vous étiez concentré. Donc on voit que toute technologie a un risque, et même quand on pense qu'on la maîtrise un petit peu.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
En troisième invité ce soir, Alexis Normand, vous êtes directeur du développement de WeThink, c'est auteur de La Révolution de la e-santé, c'est publié chez Erol. Alors vous avez entendu depuis le début de cette émission évidemment des critiques, j'imagine que vous ne les contestez pas. En revanche, votre point de vue, et c'est d'ailleurs ce que vous développez dans ce livre que vous publiez, c'est pour montrer qu'il y a aussi des choses positives qui viennent avec le numérique. Et là, on est dans tout ce qu'on appelle l'e-santé, e-santé. Un rapide résumé de ce que ça peut apporter de positif, les nouvelles technologies, le digital.
Je pense qu'en effet, on ne peut pas parler du numérique et de la santé que du point de vue des risques, puisque dans toute activité nouvelle, il y a un certain nombre de risques. Ce qu'il faut d'abord, à mon avis, souligner, c'est que le numérique apporte en santé un accès à l'information.
Il y a des statistiques aussi.
De la santé qui n'existait pas. On peut peut-être prendre conscience des risques qu'on a évoqués plus facilement à travers un certain nombre de sites sur les problèmes des yeux. Ça donne accès ensuite, ça met les gens en relation, en réseau. Pour ma part, j'ai pu consulter un ophtalmologue en un jour et peut-être sauver un de mes yeux grâce à une application de prise de rendez-vous. Je pense que ça, c'est cette mise en relation avec des médecins, avec des consultations en ligne, avec des réseaux de patients, est une deuxième source très importante d'information. Et puis, il y a une troisième chose, c'est que le numérique apporte des nouveaux services très importants qui peuvent se manifester avec des applications, avec des objets connectés. Dans l'ensemble, elle permet, à mon avis, de résoudre des problèmes de santé que seul le patient lui-même peut prendre en charge, parce que vous devez sans doute savoir que 2/3 des dépenses de santé sont dues aux maladies chroniques. Ce sont, si on prend l'exemple du diabète, des maladies où on consulte quelques fois par an un de ces médecins, mais par contre on s'en occupe soi-même tous les jours. Et on voit bien que les patients sont souvent un peu livrés à eux-mêmes.
Et là, une application peut aider à maintenir une régularité dans le prendre son traitement, par exemple, connaître...
Absolument, ça comble en fait ce vide qui est immense entre deux consultations médicales. Ça, je pense, a un impact considérable, non seulement pour la personne, pour s'informer, pour apprendre à mieux se traiter, mais peut-être même dans le système de soins, puisque tout d'un coup, il devient possible d'exercer une forme de prescription, non pas dans le cabinet médical, mais en fait au domicile des patients. Et actuellement, le système de santé ne rémunère pas ce suivi, ne rémunère pas cette capacité nouvelle qu'on a d'identifier... Ne l'organise pas d'identifier qui a besoin d'un suivi prioritaire. Et donc, c'est de ça que j'ai voulu parler. Et de toutes ces implications, évidemment, éthiques.
Et puis aussi des applications tout court, des apps, comme on dit. Alors, vous travaillez notamment pour WeThings, en l'occurrence, qui propose des bracelets, des montres qui permettent de calculer son nombre de calories, capteurs de sommeil, fréquence cardiaque, etc. On a tous ces outils très, très nombreux. Vous croyez à cette, même si tout n'est pas encore au point, c'est encore assez récent, les études restent variables sur les résultats de tout ça. Mais concrètement, vous croyez à cette dynamique concrètement de l'e-santé pour à la fois être une industrie, permettre de créer des modèles économiques pour des start-up, mais aussi aider sérieusement la santé des individus.
Il faut définir un petit peu le périmètre de l'e-santé, mais si on prend tout ce qui est encouragement aux habitudes saines, c'est déjà un marché considérable. Une application sur 10 téléchargée concerne la santé. Ça peut être des choses simples comme le running, qui sont quand même des activités de prévention
courir.
De base.
Courir.
Excusez-moi. Il y a énormément d'applications sur la gestion de son poids. Vous retrouvez une version numérique de Weight Watchers, de tout ce qui forment des communautés, qui encouragent les habitudes saines autour de la gestion du poids. Vous avez des applications gestion de la maladie chronique. Et puis, vous pouvez maintenant vous connecter à un dossier médical chez le praticien. Et ça, c'est un marché considérable. C'est un marché où la France est extrêmement en retard.
On est avec deux médecins ce soir, Gilles Renard, ophtalmologue, Damien Mascret, vous êtes médecin généraliste. Peut-être une réaction sur ces applications, sur l'e-santé, dont j'imagine vous ne contestez pas le principe, mais vous pouvez sur tel ou tel avoir des questions. Capteurs de sommeil, bracelets sur les calories, la fréquence cardiaque, par exemple le grain de beauté qu'on peut prendre en photo et voir s'il est cancérigène, le diabète, etc. Quels sont les points positifs ou plus négatifs qu'on peut avoir sur ces applications?
Alors, le point positif, c'est que effectivement, les perspectives sont considérables. L'utilisation par l'usager, finalement, d'une sorte de veilleur, d'un assistant qui va peut-être parfois lui dire, là, il faut quand même s'inquiéter, il va falloir aller voir le médecin, car ne rêvons pas, on ne va pas remplacer les médecins, enfin, rêvons, ne cauchemardons pas. Évidemment, non, mais les applications qui vont peut-être rassurer aussi, parfois, seront utiles. Et puis, la transmission d'informations, évidemment, si vous avez un malaise et que vous savez mettre sur votre thorax des capteurs, eh bien, il sera très facile de transmettre l'électrocardiogramme immédiatement à un centre qui pourra lui-même évaluer à quel moment il faut alerter un médecin. Enfin bref,
les perspectives...
Oui, il y a toujours un mais après le bref, mais elles ne sont pas encore suffisamment au point. Et on se retrouve parfois avec des applications, alors vous le citiez pour les grains de beauté, pour les mélanomes, qui sont faussement rassurantes, qui vous allez prendre en photo même en respectant les normes indiquées par le fabricant. Mais comme ils ne sont pas soumis à des contrôles de qualité sur la fiabilité scientifique, et heureusement, parce que c'est quasiment impossible à faire, même pour des tests diagnostiques de pointe. C'est très difficile de savoir ce qui est fiable et pas fiable. Enfin bref, là aussi, on voit qu'il y a des progrès à faire, il y a une évolution à faire. Elle va se faire. Il ne faut pas être réfractaire, il ne faut pas se dire « non, mais on remplacera jamais le médecin, arrêtons avec tout ça, c'est n'importe quoi ». Ce n'est pas vrai du tout. Il y a des systèmes qui s'améliorent, ça va s'améliorer de plus en plus. Et donc, je pense vraiment que ça va devenir des assistants personnels qui seront utiles à la santé. Mais aujourd'hui, encore une fois, méfiance, car il y a énormément de dispositifs ou d'applications qui ne sont absolument pas scientifiquement validés.
Alexis Normand, une réaction sur
ça ? Oui, alors effectivement... Il est très important.
On est encore au début de cette révolution, au fond.
On est au début, mais je pense qu'il y a énormément de choses qui sont validées médicalement. Vous avez des tensiomètres connectés, qui sont des dispositifs médicaux qui suivent le même cycle de validation que des objets non connectés. On peut dire la même chose de pèse-personnes connectées, enfin, de capteurs de rythme cardiaque connectés, d'ECG connectés, d'électroencéphalogrammes connectés. Donc, les applications elles-mêmes de prescription commence maintenant à suivre le même cycle de validation qu'un médicament.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas un médecin quand même là pour valider après.
Non, mais il y a le même processus d'études cliniques, il y a les mêmes agences sanitaires de validation, donc tout n'est pas validé, c'est vrai, mais il y a des choses qui sont validées et ceux qui le font ne s'en privent pas. Sur le diabète, par exemple, il y a des logiciels aujourd'hui qui vous recommandent le dosage de votre insuline en fonction de votre mesure de glycémie, qui ont parcouru le même chemin, donc qui miment le raisonnement du médecin et qui le font valider comme un médicament. Et ça, ça arrive sur le marché et je pense que ça va être remboursé assez rapidement. Donc je pense qu'il ne faut pas minimiser l'innovation en santé. Je veux dire, John Stuart Mill disait ça passe toujours par trois phases, l'innovation, le ridicule, la discussion et l'adoption. Je pense que on a commencé en disant que c'était gadget. Ensuite, on en discute, on dit oui, mais c'est risqué, il y a tel et tel problème. Et je pense qu'on est en train de voir déjà l'adoption sur certains segments.
Une réaction peut-être de l'ophtalmo à ces débats, professeur Gilles Renard.
L'ophtalmo a un problème très particulier, qui est celui du glaucome, avec une pression à l'intérieur de l'œil qui augmente. Vous allez chez l'ophtalmo, il mesure votre pression, c'est un instantané. Il n'a aucune idée de ce qu'est la pression le reste de la journée et dans les jours suivants. Or, il apparaît actuellement des lentilles de contact qui mesurent la pression intraoculaire et qui vont permettre de fournir en temps réel la pression à l'intérieur de l'œil dans des conditions que nous ne connaissons pas actuellement et qui vont permettre...
Donc là, c'est très positif.
Ah, c'est plus que positif. Et vraiment, en médecine, notre problème, c'est l'instantanéité de l'acte médical. On mesure une pression artérielle, on mesure une pression oculaire, on mesure un rythme cardiaque. Et puis, deux minutes après, c'est différent. Mais on n'en sait rien. Et là, le numérique va pouvoir, en partie, boucher ce gap dans notre expertise médicale.
Une réaction, Alexis Normand.
Oui, tout à fait. Il y a des sociétés qui travaillent à la validation de ces dispositifs médicaux avec en fait un capteur de pression artérielle dans l'œil qui se connecte à une lunette qui envoie l'information à un smartphone ou un autre dispositif et qui crée un suivi continu. On voit la même chose pour le cœur, on voit la même chose pour le poids. Et donc, quand on dit qu'il faut combler ce vide immense entre deux consultations médicales, concrètement, c'est la capacité à identifier des sujets prioritaires et à intervenir. Je voudrais juste rajouter une chose sur les écrans, c'est que les écrans ne sont pas le seul médium de canal d'information. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'assistants vocaux qui sont des intelligences artificielles. Les enceintes connectées avec des assistants d'intelligence artificielle se multiplient. Certains sont déjà interfacés à des logiciels d'auto-diagnostic ou en tout cas de consultation d'élimination des soins. Donc vous allez aussi pouvoir consulter des ordinateurs sans passer par un écran.
Et puis être malade, non seulement des yeux, mais on l'a dit, des oreilles aussi en même temps.
Alors il faudra régler le volume. Mais je pense que peut-être que l'écran n'est qu'une phase transitoire. Ce qui compte, je pense, c'est l'accès à l'information, c'est la mise en relation et c'est le service.
Pour terminer cette émission, on ne peut pas ne pas évoquer, même brièvement, ça ferait l'objet, on l'avait fait d'ailleurs à deux reprises déjà dans Soft Power, on avait fait une émission complète sur l'Inde et une autre émission complète sur l'Afrique et le Kenya. Évidemment, il y a tout un tas d'applications, de services. On le sait par exemple avec l'application MPedigree qui a été créée au Kenya, qui permet avec un smartphone de regarder l'étiquette d'un produit pour vérifier si le médicament est vrai ou s'il a été falsifié. Puis il y a des applications très nombreuses. Je me souviens notamment d'un dialogue qui avait été fait. On avait interviewé Devi Shetty, cardiologue, qui avait été le cardiologue de Mère Teresa, mais aussi le directeur d'un hôpital spécialisé en cardiologie à Bangalore et qui arrivait à faire des diagnostics pour d'autres hôpitaux. Il n'y avait pas de spécialiste aussi reconnu en cardiologie pour voir quel était l'état de santé des jeunes, par exemple, qu'il fallait opérer du cœur ou pas et à quelle distance. Et tout ça était possible grâce à tout un tas de technologies. Donc on voit bien, on peut conclure peut-être sur ça avec vous, Damien Mascret, comment sur ces en Inde, en Afrique, ou ailleurs, les technologies peuvent faire avancer dans des pays où il y a un manque criant d'informations, la santé.
Oui, c'est vrai qu'on dit souvent que nécessité fait loi, et dans un pays où vous avez un seul dermatologue, par exemple, pour 1 million d'habitants, ou un gynéco-obstétricien pour tout le pays, hein, dans certains pays d'Afrique c'est le cas, bien évidemment que récupérer des informations sur place avec tous ces petits outils, à partir du moment où vous avez une connexion, vous pouvez envoyer les informations, vous pouvez même réaliser maintenant des échographies avec des appareils miniaturisés qui n'ont plus rien à voir avec les anciens. Bref, vous pouvez aller sur place avec des gens qui sont simplement formés à utiliser l'outil pour les transmettre à un spécialiste, des centres, peut-être des algorithmes qui feront un premier tri. Enfin bref, il y a une utilisation vraiment qui va émerger, fleurir dans les pays qui n'ont pas le choix et qui seront largement récupérés dans les pays qui sont dans le luxe.
Voilà, e-santé pourra peut-être, avec ubérisation de la médecine, pour prendre les aspects positifs et négatifs à la fois, rentrer dans le Petit Larousse 2018, apparaître le 20 juin. Il y aura déjà le mot ubérisation, justement, disruptif ou encore infobésité, comme quoi ils s'adaptent eux aussi aux évolutions des nouvelles technologies. On va se quitter avec Ariana Grande, un peu moins de 2 semaines après l'attentat qui a eu lieu en marge du concert de cette chanteuse à Manchester. C'était le 22 mai dernier et au lendemain des attentats qui ont fait 7 morts à Londres hier soir, dont d'ailleurs on vient de l'apprendre, un Français qui a été tué selon un communiqué qui vient de sortir à l'AFP là, il y a quelques minutes, communiqué du ministère français des Affaires étrangères. Donc au lendemain de ces attentats qui ont fait 7 morts à Londres, la chanteuse américaine Ariana Grande a décidé de revenir ce soir à Manchester pour un concert qui lui a donc été maintenu. Une soirée d'hommage exceptionnelle où se produiront aux côtés d'Ariana Grande, Katy Perry, Justin Bieber, Coldplay, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Usher, The Black Eyed Peas, aussi Robbie Williams. Bref, un tel plateau et une telle générosité puisque les bénéfices de cet événement seront reversés aux familles. On comprend donc pourquoi les 50 000 places se sont vendues en seulement 6 petites minutes. Concert retransmis ce soir par la BBC en France. Vous pouvez le voir sur TMC. À noter également qu'Ariane Grande sera en concert à Paris ce mercredi à l'Accor Hotel Arena, puis à Lyon vendredi 9 juin. On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à mes 3 invités ce soir, Gilles Renard, Alexis Normand et Damien Mascret. Merci à vous. Merci. Au cours de cette émission, Merci. Nous avons évoqué de nombreux articles, des sources, des articles, des sujets, des livres. Tout ça est à retrouver sur notre site Soft Power ou sur Twitter ou hashtag Soft Power où on a mentionné tous ces articles. Tout ça sur France Culture où il est 19h59.